Hors Case, une émission LGBT de l'association Telle Quelle en collaboration avec Radio Campus.
Bonsoir et bienvenue à l'émission Hors Case, une émission destinée à la communauté LGBTQIA+, mais pas seulement. Et aujourd'hui, on va travailler sur le sujet les demandeurs et demandeuses de protection internationale, ce qu'on appelle le DPI. Mais on y reviendra, vous inquiétez pas, pour les personnes LGBTQIA+, en Belgique, avec une personne des Rainbow Refugee Committee, RRC, en abréviation. Alors, pour animer cette émission, ce soir, on a Valérie.
Bonsoir.
Et naturellement moi, Marine. Et alors, on a un invité, Thierry Béraud.
Bonsoir.
Bonsoir. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît?
Ok. Bon, moi, c'est Thierry. Je suis bénévole dans l'associatif depuis une quinzaine d'années, surtout dans l'associatif LGBT. J'étais l'ancien coprésident de la Rainbow House et d'Inclusion, qui avant s'appelait CHB. Et la Rainbow House avait à l'époque une activité que j'avais lancée qui s'appelait les Rainbows United, qui était une activité qui date maintenant d'une, je pense, 13-14 ans, qui était une activité d'accompagnement des personnes en demande de protection internationale en Belgique sur base de leur orientation sexuelle et ou identité de genre. Et donc ça fait quand même maintenant une petite quinzaine d'années que je travaille avec des personnes en migration forcée de la communauté LGBT. Et je travaille également en Afrique du Nord, mais ça, je pense qu'on en parlera un peu plus tard.
Oui, on abordera plus précisément cette partie de la thématique un petit peu plus tard. Ce qui serait intéressant pour les personnes qui nous écoutent, c'est de comprendre ce qu'est une demande de protection internationale. Avant, on disait demande d'asile, maintenant on dit DPI, demande de protection internationale. Et qui peut la demander et pour quelle raison ?
Une demande de protection internationale, en fait, c'est une demande d'asile. Hein. C'est une demande qui vise à obtenir le statut de réfugié ou de protection temporaire ou subsidiaire. Ça, c'est encore autre chose. La demande est introduite généralement à l'entrée du pays, soit à la frontière ou dans le pays quand on a réussi à entrer sur le territoire belge. Et qui peut la demander? Ben ça, c'est régi par la Convention de Genève de 1951. Donc en fait, c'est toute personne qui craint, avec raison, d'être persécutée dans son pays d'origine, du fait de sa race, sa religion, sa nationalité, ses opinions politiques ou son appartenance à un groupe social. Et en fait, c'est dans ce cadre-là que les personnes de la communauté LGBT peuvent demander l'asile, parce qu'en fait, on considère qu'ils appartiennent à un groupe social à risque dans certains pays, et voilà.
Et quels sont les principaux pays dont sont issus les demandeurs de protection internationale accueillis par le Rainbow Refugee Committee?
Pour préparer l'émission, j'ai compté le nombre de nationalités qu'on a eues à nos ateliers. On est à 43 nationalités pour l'instant, donc c'est quand même assez vaste, mais généralement c'est beaucoup plus les pays d'Afrique subsaharienne, avec Cameroun, Burundi, Sénégal, Côte d'Ivoire, les pays de la région MENA. Donc MENA, c'est Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Beaucoup Irak, Syrie, Liban, et alors les trois pays d'Afrique du Nord au-dessus qui sont le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. On a quelques pays d'Amérique latine, et on a des pays de l'Est aussi, beaucoup des Géorgiens, on commence à avoir des personnes qui viennent de Russie. Et alors on a des pays européens, ce qui est quand même, voilà, c'est assez rare, mais là on a deux personnes qui viennent de Pologne.
Ok, et donc ces pays ont des... On peut comprendre que si ces personnes demandent l'asile, c'est que ces pays ont des sanctions, font des... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à se dire « je vais quitter mon pays, je vais quitter ma famille
» Il y a encore des pays qui criminalisent, qui pénalisent, qui appliquent la peine de mort. Et du coup, ben, effectivement, donc c'est des personnes qui fuient ce genre de problème. Par exemple, pour le Cameroun, il n'y a plus vraiment de pénalisation, mais ce qui se passe là, c'est ce qu'on appelle la justice sociale. Donc c'est la population en fait qui se fait justice elle-même quand elle croise des personnes de la communauté. Et c'est souvent plus la pression sociale que les gens fuient. Voilà, je ne sais pas si...
Mmh, oui, c'est suffisant. Quelles sont les différentes étapes administratives pour une demande de protection internationale ? J'imagine qu'on n'arrive pas et qu'on fait toc-toc à la porte et puis deux jours après, on a ses papiers, quoi.
Non. Ben d'abord, il faut connaître ses droits, savoir comment ça fonctionne. Donc, c'est vrai qu'on accueille de plus en plus des personnes qui ne connaissent pas la procédure d'asile. Donc, on essaie un petit peu de leur expliquer les différentes étapes. On reçoit beaucoup de messages à l'international aussi, donc par WhatsApp ou par mail, de personnes qui nous demandent des conseils et parce qu'ils ne connaissent pas la procédure à suivre. Donc la procédure, c'est d'arriver sur le territoire belge ou d'arriver à la frontière. Là, je vais parler de la procédure quand on arrive sur le territoire belge. Première procédure, c'est d'aller s'inscrire et d'enregistrer sa demande de protection auprès de l'Office des étrangers. Maintenant, ça se fait au Pacheco, depuis la crise de l'accueil. Donc là, c'est la première étape. Donc, l'Office des étrangers, en fait, c'est l'office qui est là pour un petit peu statuer sur la forme, qui est là pour voir si effectivement c'est la Belgique qui est responsable de traiter la demande ou pas. Seconde étape, ça se faisait avant, le même jour, maintenant plus, il y a ce qu'on appelle le questionnaire de l'Office des étrangers. Donc c'est quelques petites questions, c'est des questions généralement assez, qui sont toujours les mêmes, et qui servent en fait à préparer la grande audition qu'il y aura par la suite. Donc seconde étape, c'est rejoindre un centre d'accueil. Donc là, c'est FEDASIL qui gère ça. Bon, malheureusement, avec la crise de l'accueil, maintenant, les hommes célibataires n'ont plus de centre. Donc, c'est vraiment un énorme problème et souci qu'on a pour l'instant en Belgique. C'est qu'on a énormément de personnes de la communauté qui sont à la rue. Et d'autres communautés, hein, voilà, les hommes célibataires n'ont plus systématiquement et ont pratiquement plus de centre d'accueil attribué. Donc, c'est des personnes qui se retrouvent à la rue. Donc, c'est vraiment très, 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 même plus que problématique. Pas dire criminel, mais bon.
Si, si, ils enfreignent, la Belgique enfreint les droits humains et a déjà été condamnée à ce niveau-là. Donc,
Elle a été condamnée plusieurs fois, effectivement, oui. Et nous, on a des dossiers qui... En fait, ce qui se passe dans ce cas-là, c'est qu'on conseille aux personnes de passer par leur avocat et d'attaquer la Belgique, en fait. D'attaquer FEDASIL devant le... C'est comique, mais en fait, dans ce cas-là, c'est le tribunal du travail, en fait, qui statue par rapport à... À ce genre de problème. Et par la suite, effectivement, ça peut passer devant la Cour européenne des droits de l'homme. On a déjà des dossiers qui sont montés assez haut. Mais voilà, c'est vraiment un gros problème pour l'instant. On ne parvient pas à gérer cette crise. Et je pense qu'on pourra peut-être en parler plus tard par rapport aux actions que font le Rainbow Refugee Committee. Voilà, donc ça, c'est... L'accueil, c'est géré par FEDASIL. Et après, il y a un troisième organe qui s'appelle le CGRA, donc c'est le Commissariat Général aux Réfugiés Apatrides, qui statue sur la recevabilité. Voilà, un mot difficile à prononcer. Mm-hmm. Je savais bien que j'allais avoir un problème. Et qui donne ou pas le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire. Donc, c'est quoi la recevabilité ? C'est simplement savoir si, effectivement, la personne n'a déjà pas eu un statut de réfugié dans un autre pays européen ou dans un autre pays. C'est aussi en cas de demande multiple, parce que des personnes qui ont eu un refus peuvent redemander une deuxième demande de protection internationale. C'est de bien voir s'il y a des nouveaux éléments qui permettent effectivement de réouvrir un dossier. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la recevabilité, donc c'est aussi du rôle du CGRA. Et alors, il y a un quatrième organe, qui est le conseil du contentieux, enfin des contentieux des étrangers, donc est une cour qui est là pour instruire les recours que les demandeurs et demandeuses de protection internationale auront fait contre le CGRA ou contre l'Office des étrangers. Donc contre l'Office des étrangers, c'est généralement plus des recours contre les ordres de quitter le territoire. Les ordres, c'est les Dublin. Je vais peut-être expliquer ce que c'est Dublin.
Oui, explique Dublin, parce que...
Et Dublin, en fait, c'est vrai que j'aurais peut-être dû en parler au niveau de l'Office des étrangers. En fait, Dublin, c'est une procédure européenne. En fait, l'Europe a essayé d'unifier en fait leur procédure d'asile. Et pour ça, ils sont tombés sur un accord qu'on appelle la procédure Dublin. Ça veut dire que la personne doit demander l'asile dans le premier pays d'arrivée en Europe ou dans le pays qui a émis le visa. Et quand les personnes viennent en Belgique, et par exemple qu'elles ont eu un visa espagnol, normalement, ce serait l'Espagne qui devrait instruire le dossier. Donc la personne peut demander la protection en Belgique, mais la Belgique va après demander à l'Espagne de reprendre. Si l'Espagne répond en disant on reprend. Si l'Espagne ne répond pas, la Belgique considère que c'est un oui, donc on renvoie la personne en Espagne. Et si l'Espagne dit non, ben c'est la Belgique qui instruit le dossier, en fait. La Belgique peut malgré tout accepter d'instruire des dossiers pour des raisons humanitaires ou des raisons... On a le cas, par exemple, avec des personnes qui viennent de Grèce. On sait que l'accueil des réfugiés est encore pire pour les réfugiés LGBT. En Grèce, c'est vraiment catastrophique. Donc, dans certaines situations, quand nous, on argumente auprès de l'Office des étrangers, qui casse le Dublin. C'est-à-dire que la personne a le droit de rester en Belgique et de faire sa procédure ici. Il y a d'autres pays comme l'Italie. L'Italie, pendant tout un temps, je pense que c'est encore d'actualité, a déjà annoncé au niveau européen qu'elle ne reprendrait plus les personnes, donc d'office. Voilà. Donc c'est la procédure Dublin. Et je ne sais plus, oui, je parlais encore du conseil, je parlais tout à l'heure du conseil de contentieux, et le conseil des contentieux des étrangers est là aussi pour valider, casser les refus de statut de réfugié que le CEGRA aura émis.
C'est peut-être important de préciser que ça prend du temps.
Une procédure d'asile prend énormément de temps, effectivement. D'autant plus quand on est sous Dublin. On peut rajouter 6 mois, 1 an en plus. C'est très dur de dire aux personnes combien de temps va durer la procédure. C'est aléatoire. C'est vraiment en fonction du pays, en fonction de la personne qui gérera le dossier au niveau du CGRA. Ça dure de 6 mois à 3 ans, quoi. Donc c'est vraiment aléatoire. On a essayé de voir si par rapport à certains pays, je pense qu'il y a vraiment, c'est au niveau du CGRA, c'est au niveau de la personne qui traite le dossier, de la pile de dossiers qu'elle a à traiter, de la priorité qu'elle en donne, et puis en fonction des pays aussi, parce qu'il faut savoir que la personne qui instruit le dossier au CGRA, qu'on appelle un ou une officière de protection, ont des pays attitrés. Et donc ça dépend aussi du nombre de personnes qu'il y a par pays. Moi j'avais entendu, parce que je ne peux pas l'affirmer, mais je pense que mes informations étaient les bonnes, que pour la Tunisie, il y avait que 2 personnes, et une des personnes était malade et l'autre avait donné sa démission. Donc ils se sont retrouvés à un moment sans plus personne pour traiter les dossiers. Donc évidemment ça prenait du retard. La procédure est effectivement assez longue.
C'est ça. Et pendant toute cette période, donc la personne en demande est normalement hébergée dans un centre où peut déjà avoir droit, je ne sais pas, à une aide sociale et y prendre un appartement, un logement ou, comment ça se passe concrètement ?
Si la personne est dans un centre, elle a droit effectivement à un accompagnement au sein du centre. Elle a droit à l'aide médicale d'urgence. Elle a droit à avoir un AS. Elle a droit à faire des formations.
AS, donc assistance sociale.
Voilà, pardon. Si elle est dans un centre, généralement elle sera inscrite sur la liste d'attente des étrangers dans la commune où se situe le centre, donc elle aura droit à ce qu'on appelle la carte orange, qui est une carte d'enregistrement. Au bout de 4 mois, elle aura un permis de travail qui sera imposé sur la carte orange, donc elle aura le droit de trouver du travail. Si la personne n'a pas de centre, ce qui est le cas là pour les hommes célibataires ou pour des personnes qui ont décidé de ne pas aller dans un centre. La personne a le droit aussi de refuser d'aller dans un centre. Là, la personne a droit à ce qu'on appelle l'aide médicale d'urgence et n'a pas droit au reste. Elle peut avoir droit au reste, mais il faut chaque fois faire la demande au fait d'asile. Quand je dis elle peut avoir droit au reste, c'est que là maintenant, comme fait d'asile s'est bien rendu compte qu'il y avait un problème, ils ont mis en place un espèce de hub social à Bordeaux. Bordeaux se trouve en face de l'entrée de l'hôpital Saint-Pierre. Je pense que c'est rue Olaine, si je ne me trompe pas. Et là, les personnes ont le droit à avoir, effectivement, un ou une assistante sociale, voir un psy, d'avoir des informations. Bon, ils sont débordés aussi, mais c'est déjà un premier pas pour essayer de trouver des solutions pour les personnes qui n'ont pas de centre. Voilà. Posez-moi des questions, j'aime bien.
Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui a été le déclic pour créer en fait cette association ?
Au départ, ce n'était pas une association, c'était juste un comité. En fait, le déclic, c'est le HCR, donc c'est le Haut Commissariat aux Réfugiés, qui, donc la plantation ici européenne qui s'occupe du Bénin, enfin, Belgique-Luxembourg, je pense, qui avait envie de créer des comités de réfugiés communautaires. Et le premier comité qu'ils ont démarché, c'est un comité LGBTQIA+. Et en fait, à l'époque, ils sont venus voir la personne qui était responsable de l'activité Rainbows United, de la Rainbows, pour créer un comité en fait, de réfugiés. Et ils ont créé d'autres comités. Il y a des comités, un comité irakien, syrien, érythréen, burundais ou femmes. Donc voilà, donc je pense qu'il y a maintenant 11 comités. Et tous ces comités font partie de ce qu'on appelle l'Umbrella Refugee Committee, donc est un parapluie. Et donc la volonté du HCR à l'époque, c'était vraiment donner la parole aux personnes qui ont obtenu le statut de réfugié ici en Belgique pour voilà, une meilleure plaidoyer par rapport à l'intégration de ces personnes. Parce que voilà, on se rend compte quand on a le statut de réfugié, ben, c'est pas encore la fin du parcours du combattant. Il faut trouver un boulot, il faut trouver un appartement, il faut trouver à se loger, il faut... Voilà, c'est assez compliqué. Donc là, la volonté du HCR, c'était d'avoir des comités de réfugiés qui permettaient de donner de l'input auprès des décideurs politiques pour créer un meilleur système d'accueil des réfugiés en Belgique. Nous, en tant que comité LGBT, on ne voulait pas se limiter qu'aux réfugiés. On trouvait aussi ça important de se limiter, enfin d'introduire au sein du comité les personnes qui sont en demande de protection internationale. Et ça a été accepté par le HCR à l'époque. Et puis par la suite, on a vraiment pris un peu plus d'autonomie, d'indépendance. Le comité s'est développé de plus en plus. Le comité a travaillé en partenariat avec la Rainbows sur des formations qui ont été dispensées en 2019 et 2020 par la Rainbows dans les centres d'accueil Fait d'asile et sous convention avec Fait d'asile. Et là, en fait, des membres du Rainbow Refugee Committee aller durant les formations pour donner en fait leur input en tant qu'experte et expert du vécu. Et ça a vraiment, vraiment bien fonctionné, c'était assez chouette. Et le comité est devenu un projet d'une autre association qui s'appelle ACE, qui est aussi membre de la Rainbows. Et le but pour ACE, c'était d'essayer de donner un maximum d'autonomie aux membres du comité de réfugiés pour que le comité prennent une indépendance. Et là, le 15 décembre 2022, le comité est passé en association, donc en ASBL, et maintenant est devenu une ASBL à part entière, et développe des actions en son nom cette fois-ci.
Et c'est quoi justement, tu parles d'actions, c'est quoi les missions, les objectifs ?
Les missions premières, comme j'expliquais, c'était vraiment de donner de l'input par rapport à la mise en place des projets qui touchent les demandeuses d'asile. Parce qu'on se rend compte malheureusement que même au niveau associatif, il y a des fois des projets qui sont mis en place mais qui ne correspondent pas aux besoins des personnes. Donc en fait, le but du comité, c'était, on est là, venez nous consulter, venez vraiment voir quels sont nos réels besoins avant de mettre en place des choses qui ne correspondent pas à nos besoins, parce que malheureusement, encore maintenant, ça se fait. Donc il y a des projets associatifs ou des projets politiques ou des décisions qui sont prises mais qui ne correspondent pas aux besoins des personnes concernées. Donc c'est des fois un peu... Voilà. Donc ça, c'est vraiment la première mission. Et la seconde mission, c'est que les personnes qui ont obtenu le statut de réfugié, qui sont concernées par cette thématique, qui sont passées par tout le parcours, qui connaissent ce que c'est que le parcours, ont décidé d'accompagner les personnes qui sont dans le parcours, donc qui sont en demande de protection, et on accompagne. On accompagne comment ? On a deux activités principales qui sont des groupes où on explique la procédure d'asile avec un focus LGBTQIA+. Donc là, on explique le cheminement que je vous expliquais tout à l'heure, c'est l'Office des étrangers, le petit questionnaire, comment préparer son dossier, comment préparer des preuves pour son audition au CGRA, parce que ça aussi, par rapport à d'autres demandeurs de protection internationale, quelqu'un qui est membre de la communauté LGBT, la première chose qu'elle doit prouver, c'est qu'elle est membre de la communauté LGBT, qu'elle est gay ou qu'elle est lesbienne. Enfin voilà, c'est comment prouver quelque chose quand on l'a caché toute sa vie, quand on l'a tue toute sa vie et quand on ne sait pas mettre des mots sur ce qu'on est en fait. Moi, je me souviens d'une lesbienne qu'on a accompagnée, je pense qu'elle venait du Sénégal. Désolé, j'ai oublié. Mais il lui a fallu 6 mois pour mettre le mot lesbienne. Elle ne parvenait pas à verbaliser ce mot-là, alors que, d'un autre côté, le jour de son audition au CGRA, il va falloir qu'elle le dise, parce que sinon on va dire vous n'êtes pas crédible, on vous croit pas et vous allez avoir un refus. Du coup, ça c'est une voilà première chose, c'est des ateliers de groupe où on explique tout ça, on apprend à dédramatiser, à verbaliser, à utiliser les mots européens, voilà, est-ce qu'il faut utiliser les mots européens aussi, lesbien, gay, enfin. Et deuxième activité, là c'est plus de l'accompagnement individuel, et là ça vraiment sur différents domaines. Bon, avec la crise de l'accueil, on essaie de trouver des logements, ce qui est hyper compliqué. On essaye de faire des recours, d'aider les avocats à faire des recours. C'est vraiment surtout quoi, recherche d'avocats, recherche de psy, recherche d'un emploi. Vraiment, on travaille sur plein de thématiques différentes, c'est assez vaste. Et alors, on fait aussi des entretiens préparatoires à l'audition. Ça, on essaie maintenant d'un petit peu réorienter vers d'autres structures qui le font, parce que c'est un peu compliqué pour nous. Il faut savoir qu'on est tous et toutes bénévoles au sein du Rainbow Refugee Committee. On a reçu quelques petites subventions sur des projets, donc ça veut dire que voilà, au bout d'un
an... Oui, pour imprimer un flyer ou quelque chose comme ça.
Oui, ou défrayer des bénévoles ou des choses comme ça, mais on n'a pas de structurel, donc pour l'instant, impossibilité d'engager quelqu'un, salarié, ça ne va pas être possible pour le moment, un bureau, ça ne va pas être possible non plus, enfin voilà, donc c'est un peu compliqué pour l'instant.
Et vous êtes combien ?
On va dire qu'on tourne avec une dizaine de bénévoles.
Donc appel justement des personnes qui seraient voilà, tentées de devenir volontaires dans l'association. On entend qu'il y a des besoins et que vous êtes quand même ouverts à recevoir des aides supplémentaires. Donc les auditeurs, auditrices, n'hésitez pas à nous contacter au cas où ou à contacter directement l'association des Rainbow Refugees Committee pour donner votre aide.
Oui, toujours la bienvenue effectivement. Et voilà, donc ça c'est les activités principales, mais c'est vraiment vaste, hein, c'est vraiment sur...
Est-ce que vous faites des activités qui est plutôt, je veux dire, culturelles ou de rassemblement ou,
Non, là on oriente vers d'autres structures associatives qui le font, voilà, j'ai parlé des Rainbows United, de la Rainbows tout à l'heure, l'activité a été suspendue pendant un an. C'est peut-être pour ça, effectivement, que nous, on a eu de plus en plus de demandes. Et là, ils ont recommencé l'activité, mais sous un autre format. À l'époque, les Rainbows United, c'était plus aussi l'explication de la procédure. Maintenant, ils ne le font plus. Parce que c'est une activité qui est reconnue en éducation permanente et ça ne correspondait pas trop au décret en éducation permanente. Et donc, du coup, maintenant, effectivement, ils font plus des activités d'éducation permanente, mais c'est quand même plus des activités de groupes de parole, voilà, c'est... nous, on n'a pas le temps de faire plus du socio, enfin, du culturel. Nous, on se focalise vraiment sur la première ligne.
Sur les droits et l'accessibilité
voilà.
aux droits.
C'est ça.
Et voilà. À l'information.
Voilà, oui.
Et comment les personnes sont au courant de votre existence ? Par quel réseau les demandeurs et les demandeuses arrivent jusqu'à vous ?
Les réseaux sociaux.
Oui.
Le bouche à oreille. Les avocats. Les assistantes sociaux et des différents centres, le monde associatif, beaucoup d'associations membres de la Rainbows nous réfèrent des personnes. Voilà.
Ok.
Et est-ce que vous travaillez avec des associations, je pense par exemple à Merhaba ou d'autres associations comme ça qui pourraient aider là-dedans ?
On essaie de faire des synergies, effectivement. Ben, on fait des synergies déjà avec tel quel, avec vos permanences sociales.
Les services sociaux.
Voilà, services sociaux de tel quel. Avec Merhaba, oui, on développe des synergies. On travaille avec le même public. Donc là, par exemple, la Rainbows a remis en place un groupe de travail Asile et Migration où, effectivement, les associations qui travaillent sur cette thématique se mettent autour de la table une fois tous les deux mois pour discuter comment est-ce qu'on peut faire des synergies, comment on peut se référer les personnes, comment est-ce qu'on peut se réorienter en fonction... en fonction des spécificités de chaque association membre de la Rainbow. Donc là, il y a des choses qui sont en train de se remettre en place, et c'est tant mieux, parce que nous, il faut vraiment qu'on parvienne aussi à se décharger. Parce qu'on se rend compte que des fois, différentes associations font le même travail. Donc c'est un peu ridicule. Donc ce serait, voilà. Donc là, ça se met en place tout doucement. On tient bon, on s'accroche. Et moi, je pense que d'ici un an, on va pouvoir se formaliser. On va pouvoir aussi vraiment trouver notre place et alléger un petit peu notre charge de travail, qui pour l'instant est vraiment très difficile. Et on espère, voilà, un bureau, pourquoi pas à mi-temps, ce serait magique.
Moi, je voudrais juste revenir, parce que tout à l'heure, tu nous as parlé donc d'une liste de pays dites sûrs. Est-ce que tu peux revenir là-dessus un petit peu pour expliquer aux auditoristes justement ce que c'est, c'est quoi cette liste sûre? Lorsqu'il y a une demande, il y a la CJRA qui dit qu'il y a une liste qui est sûre et donc ça ne correspond pas.
Oui, mais c'est dans le cadre de ce que j'expliquais tout à l'heure, dans le cadre de la recevabilité. En fait, le CJRA part du principe que si un ressortissant vient d'un pays qui est sur leur liste de pays dits sûrs, normalement la personne n'a pas le droit de demander l'asile, parce qu'il n'y a pas de raison de demander l'asile. Mais ça aussi, on essaie de faire du plaidoyer, de casser certaines décisions d'irrecevabilité, parce qu'effectivement, il y a certains pays qui sont repris sur des pays sûrs, mais qui ne sont pas sûrs pour un membre de la communauté LGBT. Donc c'est peut-être sûr d'un point de vue sûr au niveau droit politique, sûr au niveau guerre, sûr au niveau... Oui, mais il y a un moment... je ne vais pas... Je rentre dans le politiquement et dans le diplomatiquement pas correct, donc je ne vais pas en parler.
Alors Thierry, comment est-ce qu'on peut visibiliser les réfugiés LGBTQIA+, et leur parcours au niveau des politiques? Est-ce qu'il y a moyen de faire prendre conscience aux politiques de ce qui se passe?
Je pense que les politiques savent ce qui se passe. Je pense juste que les politiques n'ont pas envie. Avec la crise de l'accueil, on se rend compte qu'il y a toujours cette fameuse peur de ce que moi j'appelle l'appel d'air, en fait. Si on a une politique de l'accueil trop inclusive, trop light, on va dire, je pense que les politiques ont peur que du coup, on ait trop de demandes. Je pense que c'est plus un fantasme et c'est plus une peur qui n'est pas spécialement étayée et réelle. Mais ça, c'est vraiment, surtout avec la procédure Dublin. Mais je pense que les politiques sont au courant de ce qui se passe, savent que l'accueil en fait des personnes de la communauté LGBT c'est pas top, mais bon, il n'y a pas de réelle volonté pour l'instant de mettre des choses en place. Ça bouge un peu. C'est aussi un des rôles du Rainbow Refugee Committee, c'est faire du plaidoyer à ce niveau-là pour faire bouger les choses. Là, on a commencé à inviter les politiques, c'est bientôt les élections, donc on en profite. On a commencé à inviter les politiques pour venir voir nos activités, pour qu'ils prennent conscience, en fait, qu'il y a un réel besoin et que l'accueil des personnes de la communauté LGBTQIA+, c'est encore très problématique en Belgique. Il y a des choses qui bougent, Là, par exemple, il y a de plus en plus de formations qui se mettent en place pour aller former les travailleurs sociaux dans les centres d'accueil. Donc il y a quand même des choses qui bougent, mais pas suffisamment.
Et là, on parle de ce que vous faites sur le territoire belge, mais vous menez des actions aussi en dehors de la Belgique. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Où ça se passe? Comment ça se passe?
Donc en fait... Là, c'était une autre structure qui s'appelait ACE, qui mettait déjà en place des choses depuis 7 ans au Maroc, en Tunisie, en Algérie. Donc ACE, qui était en fait l'association qui hébergeait aussi le Rainbow Refugee Committee quand c'était encore en comité. Et là, c'était plus en fait travailler avec, c'était plus mettre en place de l'accompagnement du public LGBTQIA+ dans les pays, dans ces trois pays-là. Des bourses d'études, des bourses d'accompagnement, l'aide à la recherche d'un emploi, des choses comme ça, en fait, qu'on mettait en place dans ces trois pays, plus principalement au Maroc, là où ACE, en fait, accompagnait une douzaine de jeunes qui étaient en décrochage, qui avaient été jetés de leur famille, à cause de leur orientation, et ACE a payé des bourses, en fait des bourses d'études, pour qu'ils puissent continuer leur cursus scolaire, à payer leur code d'étudiant. Et ça, on l'a fait sur fonds propres. Une fois qu'on a créé le Rainbow Refugee Committee sous forme d'ASBL, là, il y avait vraiment une volonté de la part des membres de l'OA, du Rainbow Refugee Committee, qui sont des personnes qui ont obtenu le statut de réfugié. C'était de voir si on ne pouvait pas mettre en place des choses dans leur pays d'origine, en fait. Là, on commence. Mais on n'a pas de fonds, donc c'est hyper compliqué pour nous de commencer. Donc, on a commencé dans les trois pays où ACE travaillait déjà, sur l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, plus précisément le Maroc. Je vais donner un exemple concret. Un des membres du Rainbow Refugee Committee, qui est originaire de Côte d'Ivoire, qui a son statut de réfugié, avait un de ses copains qui était activiste dans la même association de lui en Côte d'Ivoire, qui avait demandé la protection internationale au Maroc. Parce que cette personne n'avait pas réussi à avoir de visa, n'avait pas réussi à arriver en Europe, et donc était montée le plus haut possible en Afrique. Et généralement, c'est ce qui se passe, c'est qu'ils sont bloqués par la Méditerranée, donc ils restent au Maroc, en Tunisie ou en Algérie, là où les personnes peuvent demander la protection internationale au HCR. Le HCR a l'habilité à accueillir des demandes de protection internationale dans les pays qui n'ont pas de politique d'asile. Voilà. Donc, mais ils ne peuvent accueillir des demandes de protection que de personnes qui ne sont pas ressortissants du pays dans lequel ils sont implantés. Donc au Maroc, généralement, c'est beaucoup de pays, des personnes qui viennent d'Afrique subsaharienne, qui viennent demander la protection internationale au HCR. Et donc là, on a été rencontrer cette personne, on l'a accompagné dans ses démarches. Et du coup, on l'a accompagné lui, puis on s'est retrouvé avec un petit groupe d'une dizaine de personnes subsahariennes qu'on a accompagnées au Maroc. Pourquoi je dis accompagnées ? On les a accompagnées dans leur démarche administrative. On les a un petit peu aidés financièrement, parce qu'il faut savoir que le HCR donne une allocation de survie, on va dire, de 810 dirhams, 80 euros par mois. Avec ça, il faut se loger, manger, s'habiller, se vêtir, donc c'est vraiment rien. Donc nous, on essayait de se cotiser et de compléter un petit peu cette allocation. On les aidait pour les démarches administratives et voilà. Ça marche comment quand on demande la protection au HCR au Maroc, que ce soit au Maroc ou dans un autre pays? Le HCR instruit la demande de protection internationale, octroie ou non le statut de réfugié. Et une fois qu'on a le statut de réfugié, on est proposé par le HCR à la réinstallation dans un autre pays. Pour le Maroc, généralement, c'est réinstallation vers le Canada et les États-Unis. Pourquoi réinstallation? Tout simplement parce que le Maroc n'offre pas l'asile. Et en plus, le Maroc, quand on demande l'asile sur base de son orientation, je pense que c'est peut-être pas le pays le plus sûr et le plus safe pour... voilà. Donc la procédure est longue. La procédure peut durer 2-3 ans. Donc la procédure, c'est que le HCR propose à la réinstallation, un des pays accepte, on voit, ok, on accepte telle ou telle personne, à ce moment-là, il faut encore passer des entretiens, quand c'est le Canada le fait par visioconférence, les États-Unis, ils envoient une équipe carrément des États-Unis à Rabat pour auditionner les personnes. Une fois que les personnes, leur dossier a été validé par les États-Unis, le dossier passe du HCR à l'OIM, qui est l'Organisation internationale de la migration, qui est aussi une agence onusienne, qui, elle, s'occupe de tout ce qui est logistique pour envoyer la personne. Là, maintenant, des groupes de 10 personnes qu'on a accompagnées, le dernier est parti ce 11 décembre. Et là, il vient d'arriver en Floride. Et on va être toujours en contact sur WhatsApp avec. Et là, maintenant, on est en train de voir pour reconstituer un nouveau groupe qu'on va accompagner durant le process, en fait. Ça, c'est quelque chose qu'on fait au Maroc. On aimerait bien développer ça dans d'autres pays aussi. Voilà. Mais ça, c'était vraiment, c'est une volonté des membres du Rainbow Refugee Committee. C'est voir comment... Souvent, ils me disent, on n'a pas envie d'oublier les gens qui sont restés dans notre pays, les gens de la communauté qui sont restés dans nos pays. On a vraiment envie... Voilà. Ce que nous, on pourrait mettre en place dans nos pays. En plus, eux, ils connaissent leur pays. Ils connaissent le manquement de ce qui se passe dans leur pays. On va parler franchement aussi, le manquement des collectifs dans leur pays d'origine. Il y a des collectifs LGBTQIA+ dans certains pays, mais voilà. c'est des fois des collectifs un peu problématiques. Il ne faut pas grand-chose, on va dire. Mm-hmm. Si, participer à des conférences internationales, aller à ELGA Europe, être membre de la plateforme Égide. Du coup, je pense que je ne vais pas envoyer notre candidature pour être membre d'Égide, parce que là, je viens de me griller. mais voilà, donc c'est aussi une réalité. Quoi. Et donc vraiment, les membres du Rainbow Refugee Committee ont vraiment envie de mettre en place des choses dans leur pays d'origine aussi.
C'est donc, important.
Ouais, donc là, j'entends au niveau des projets futurs, que voilà, l'envie de développer ce que vous faites pour le moment déjà au Maroc ailleurs. Y a-t-il d'autres projets que vous voulez mettre en place ?
Ben, le principal projet, c'est qu'on aimerait bien pérenniser nos actions et donc trouver du structurel. Et quand je dis trouver du structurel, c'est trouver des financements récurrents, pour ne fût-ce qu'avoir un bureau. Là, pour l'instant, on occupe des salles gracieusement au Grand Carme, qui est le nouveau centre communautaire LGBTQIA+, dans lequel tel quel est d'ailleurs...
Oui,
partie prenante.
On est impliqué, oui.
Voilà. Ben heureusement qu'on a ça, parce que sincèrement, voilà, sinon on n'aurait pas eu de salle, quoi. Et là, on occupe la grande salle parce qu'on accueille entre. Enfin, là, on est déjà. Enfin, passé, on était 68. Donc c'est beaucoup. Et puis voilà, sans bureau, sans permanence, on ne fût-ce qu'un habitant pour accompagner, accueillir. Faire le suivi administratif, parce que là, on fait tout bénévolement, mais moi, personnellement, ça me prend un temps plein, bénévole. Donc ça, c'est les projets futurs, c'est trouver du financement, aller taper aux portes, profiter que ce soit bientôt les élections pour aller taper aux... Mais ça aussi, c'est compliqué.
Et ça prend du temps également.
Je crois que vous savez, oui, ce que c'est.
Oui.
Ça prend du temps, et puis moi, c'est pas mon truc. Moi, je suis un homme de terrain, je suis un activiste. Je suis pas. Moi, quand je vois un appel à projet à rédiger, je fais des crises d'angoisse, quoi. Je comprends déjà pas les questions. Mais je connais le besoin. Moi, je vais pas être politiquement correct, c'est un petit peu ma réputation. Mais des fois, j'ai l'impression aussi, quand je réponds à un appel à projet, c'est que je vais devoir créer un besoin qui correspond pas au besoin dont on a réellement besoin. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Oui, tout à fait. Mais je pense non, qu'il y a moyen, en remplissant un appel à projet, d'argumenter et d'obtenir ce dont on a besoin. En tout cas, d'expérience, en tout cas, au tel quel, ça fonctionne comme ça. Donc, c'est possible. Mais effectivement, il faut être un peu familier avec le vocabulaire, les missions, les activités. Voilà, donc...
Je sens qu'on va se mettre une fois autour de la table.
Oui, je pense.
Alors, juste avant de clôturer, on va dire, l'émission, à moins que tu aies encore des questions, Valérie ?
Non, pour moi, c'est OK. Non.
Comment les gens peuvent te contacter, contacter l'association ? Sur les réseaux sociaux ?
Ouais, le plus simple, c'est via les réseaux sociaux. Donc, Rainbow Refugee Committee, donc en anglais. Vous tapez sur Facebook ou Instagram et vous nous followez. ou alors, il y a une adresse Gmail qui est rrcbelgium, en un mot, attaché, donc rrcbelgium@gmail.com.
Super. Mais un énorme merci, en tout cas, d'être venu, Thierry, de nous avoir fait part de l'association, de ses missions, de ses projets, etc. Et j'ai envie de dire qu'on souhaite tout le meilleur pour la suite.
Oui, moi c'est pareil, je sais que ton temps est précieux, donc effectivement, merci d'être venu. Et en tout cas, j'espère que cette émission aussi diffusera en tout cas l'information et qu'on aura peut-être un retour, tant au niveau politique qu'au niveau investissement de futurs volontaires. Voilà, on peut toujours espérer.
Ben, un tout grand merci de nous avoir accueillis. Je dis nous, parce que voilà, j'étais là pour porter la parole du comité. Et mais à très vite pour une aide à la rédaction d'un appel à projet.
D'accord. À nos claviers alors. Bonsoir.
Bonne soirée.
Orcase, une émission LGBT de l'association Telle Quelle en collaboration avec Radio Campus.